Je sais pas comment m'installer. J'ai perdu mes repères. Ah, c'est dur. Seigneur, aide-moi. Voilà. Oui, c'est vrai que je sais pas où je suis parfois en ce moment. Jésus revient. Amen. Jésus revient. Amen. Jésus revient, effectivement. Jésus, nous croyons en son retour. Jésus revient et il nous recommande de veiller à son retour. Avant que nous soyons en confinement, j'avais commencé cette série de messages justement sur le retour de Jésus et pour surtout finalement essayer de comprendre qu'est-ce que signifie veiller. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire quand il nous dit de veiller ? Et aujourd'hui, je vais boucler. Aujourd'hui, je vais boucler cette série de messages. Une chose que j'ai pu dire, c'est que veiller, on a pu comprendre au travers des passages sur lesquels nous sommes arrêtés, que veiller, c'est, on pourrait dire, c'est demeurer dans une foi active. C'est faire en sorte que nous soyons toujours dans la foi, en particulier dans le fait qu'il revienne. C'est garder notre foi éveillée dans le fait qu'il revienne. Et la dernière fois, je parlais de la parabole des 10 vierges. Ces 10 vierges dont certaines ont gardé de l'huile pour avoir de l'huile en réserve pour leur flambeau, et d'autres non. Et demeurer dans une foi active, si on reprend cette parabole, on pourrait dire que c'est finalement faire en sorte de garder de l'huile en réserve pour faire en sorte d'être un flambeau qui continue d'embraser. Aujourd'hui, je vais terminer avec les deux paraboles qui suivent. C'est la parabole qu'on appelle la parabole des talents en particulier. Je vais surtout me pencher sur la parabole des talents et un petit peu celle des boucs et des brebis, mais surtout la parabole des talents, pour voir qu'est-ce que, par ces paraboles, Jésus nous dit de ce que signifie veiller. Concrètement, qu'est-ce que c'est que veiller ? Et finalement, oui, au travers de tout ce que l'on aura vu ensemble, qu'est-ce que signifie veiller ? Alors, on va lire ensemble la parabole, si vous avez vos bibles, parce que là, elle ne peut pas être projetée. Donc, si vous avez une bible, c'est bien. Donc, la parabole que je vais lire, on la trouve au chapitre 25, à partir du verset 14 jusqu'au verset 30. « Il en sera comme d'un homme qui, étant sur le point de quitter sa maison pour longtemps, confia ses biens à ses serviteurs, un homme ou un maître. À l'un, il remit 5 talents, ce qui équivaut à peu près à une centaine de salaire. Ouais, donc c'est quelque chose de conséquent. À un autre, il remit 2 talents et à un troisième, 1 talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Celui qui avait reçu les 5 talents sortit aussitôt, investit son argent et gagna 5 talents supplémentaires. De même, celui qui en avait 2 en gagna 2 autres. Mais celui qui n'avait qu'un talent s'en alla creuser un trou dans la terre et y cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître des serviteurs revint pour régler ses comptes avec eux. Ceux qui avaient reçu les 5 talents s'avança et présenta les 5 talents supplémentaires en disant « Seigneur, tu m'as donné 5 talents, voici 5 talents supplémentaires que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « Excellent, tu es un bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle avec une petite somme. » Bon, une petite somme, c'est-à-dire 1 500 000, je crois, euros. Tu as été fidèle avec une petite somme, je te confierai donc des sommes plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui avait reçu 2 talents s'avança et dit « Seigneur, tu m'as donné 2 talents, voici 2 autres talents. » Son maître lui dit « Excellent. » Tu es un bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle avec une petite somme, à peu près 600 000 euros. Je te confierai donc des sommes plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui avait reçu 1 talent, ça fait à peu près 300 000 du coup, euros, s'avança et dit « Je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas planté et tu rassembles où tu n'as rien répandu. J'ai eu peur, alors je suis allé cacher ton talent dans la terre. » « Voici, prends ce qui t'appartient. Serviteur méchant et paresseux, » dit son maître. « Alors, tu savais que je moissonne où je n'ai pas planté et que je rassemble où je n'ai rien répandu ? Eh bien, tu aurais dû placer mon argent à la banque afin qu'à mon retour, je puisse retirer des intérêts sur mon capital. Enlevez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui en a 10, car on donnera plus à celui qui a déjà, afin qu'il soit dans l'abondance, mais à celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qu'il a. Quant à ce serviteur inutile, jetez-le dehors dans l'obscurité, là où les gens pleureront et grinceront des dents. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce que tu veux nous enseigner ce matin à chacun. Merci pour ta parole qui vient parler directement à nos cœurs. Seigneur, c'est toi qui nous as créés, c'est toi qui nous as conçus. C'est toi qui t'es fait connaître à nous aussi pour ceux qui t'ont accueilli dans leur vie. Seigneur, tu désires te faire connaître à chaque homme, à chaque femme, pour justement parler à notre cœur, restaurer notre cœur, qu'on puisse avoir les yeux dévoilés ou que les choses puissent se dévoiler pour nous. Je te remercie, Seigneur, pour le dévoilement que tu veux opérer ce matin dans le cœur de chacun d'entre nous. Amen. Donc, qu'est-ce que veiller ? Il en sera comme d'un homme ou d'un maître qui partit s'absenter. Il en sera de quoi ? Du royaume de Dieu, en fait. Jésus est en train de donner une nouvelle image du royaume de Dieu après avoir donné cette image avec les 10 vierges, qui certaines ont l'huile, d'autres pas, qui attendent le fiancé, l'époux. Jésus là se présentait sous les traits de l'époux. Là, il se présente sous les traits d'un maître, d'un homme qui est parti s'absenter. Il présente aussi Dieu sous ses traits. C'est une nouvelle image du royaume, ce royaume qui s'est installé à partir du moment où il est venu, il y a 2000 ans, qui a commencé à s'installer et qui va s'installer définitivement quand il reviendra. Ce royaume, nous voyons qu'il confie à ses serviteurs. Et ses serviteurs, c'est qui ? Ses serviteurs, c'est nous. Ses serviteurs, ce sont tous ceux qui ont choisi de s'engager à sa suite. Et donc, veiller, c'est quoi ? Quels sont en fait les biens que Dieu nous confie ? Parce qu'il vient confier des biens à ses serviteurs. C'est quoi ces biens ? En fait, sur quoi Dieu règne ? Alors certes, Dieu règne sur toute la création, hein, sur tout ce qui nous entoure là, Dieu règne. Mais au cœur de cela, sur quoi Dieu règne ? Dieu y règne sur des personnes. Il règne sur des personnes dont le cœur est changé par la foi en lui. Dieu, il règne sur des relations de ces personnes qui peuvent être selon ses principes parce que les cœurs ont changé. Et finalement, le bien, les biens que vient confier ce maître et que Dieu vient nous confier, on pourrait dire que c'est la foi. C'est la foi qui vient agir dans nos cœurs. C'est bien, c'est nous tous. Il nous confie les uns aux autres. C'est fort, ça, de se dire qu'il nous confie les uns aux autres. Ça, ce sont les richesses de son royaume. Et au premier chef, il nous confie notre cœur. Parce qu'il faut bien que le cœur change pour que nous puissions vivre selon les principes de Dieu. Ce sont cela, tous les biens, toutes les richesses du royaume de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi ? Amen. Et donc, veiller, on pourrait dire déjà, veiller, c'est travailler au royaume de Dieu, puisqu'il confie ses biens, il confie ses richesses à ses serviteurs. Donc, veiller, c'est déjà travailler au royaume de Dieu. Mais veiller, qu'est-ce que c'est plus exactement ? On voit que ce maître, il confie la gestion de ses biens aux serviteurs. Il leur donne un travail. Et c'est quoi ce travail ? C'est quoi ce travail que Dieu attend de nous et qui consiste dans le fait de veiller ? Ce que l'on peut dire, c'est que quand on lit cette parabole, on voit que, à la suite de la parabole des 10 vierges, où à un moment, j'ai dit la dernière fois pour ceux qui étaient là, que cette huile qu'avaient les vierges, c'était finalement, ça représentait la foi. Ça représentait cette foi qui demeure active. Et en fait, on voit que le moteur de ce travail, c'est la foi. Le moteur de ce travail, c'est la foi. Qu'est-ce que dit Dieu, qu'est-ce que dit l'homme aux serviteurs qui ont finalement fait ce travail, qui ont accompli ce travail? Il leur dit « bon et fidèle serviteur ». Fidèle, c'est ce qui a donné le mot foi aussi. C'est la même racine que le mot qui a donné foi, confiance. Et c'est parce que ces serviteurs ont été fidèles qu'ils ont été bons. C'est parce qu'ils ont eu la foi, qu'ils ont eu confiance, qu'ils ont pu être bons. C'est en tout cas ce qu'on peut comprendre quand on lit après la parabole des boucs et des brebis. Parce que c'est quoi cette foi? Est-ce que c'est croire simplement? Comme quelque chose de purement intellectuel? La foi, c'est quelque chose qui vient du cœur. La foi ne vient pas de la tête. Elle vient du cœur. Elle vient du cœur et c'est un élan qui justement va opérer dans notre cœur et va imprégner nos actes, va influencer nos actes. C'est ce que l'on voit dans cette parabole des boucs et des brebis. Cette foi, c'est une foi qui se traduit en actes. Dans cette parabole, là, Jésus ne se présente plus sous les traits d'un maître, d'un homme, c'est carrément le Fils de l'homme, c'est le Messie. Là, il se présente sous les traits quand il va revenir juger. Et donc là, le monde est divisé en deux. Il y a d'un côté les boucs, d'un côté les brebis. Les brebis, qu'est-ce qu'elles ont fait? Pourquoi elles sont à la droite? Elles peuvent entrer à la droite du Messie, de Jésus, parce que, c'est-à-dire dans sa présence, parce qu'elles ont accompli des actes de bonté, de justice, de compassion, de générosité. Envers des personnes, elles ont été sensibles à la détresse humaine, aux personnes qui sont exclues par la société, aux victimes d'injustice, à ceux qui sont faibles, ceux qui sont malades. Contrairement aux boucs ou aux chèvres, qui, elles, sont finalement les personnes où sont ce qui en nous n'a pas d'égard pour les autres, reste insensible à la détresse humaine, reste insensible à la souffrance, reste finalement centré sur soi. C'est pas pour rien que Jésus utilise cette image de chèvre et de brebis, parce que ces deux animaux ont un comportement très différent. Une brebis, quand elle va brouter, elle broute ce qui est en surface. Elle laisse les racines. Par contre, une chèvre, elle broute tout. Les racines y compris, et elle laisse le désert derrière elle. Et c'est pour cela qu'un berger qui est responsable saura, en particulier quand il y a des risques de désertification, qu'il y a une sécheresse, etc., il va garder les chèvres dans l'enclos, il va lâcher seulement les brebis. Et donc, ces chèvres, c'est l'image de ce qui en nous veut tout consommer. De ce qui veut tout consommer, cette création, l'environnement, finalement ne pas avoir d'égard pour les autres, ne regarder que à soi, son nombril. Alors ça peut être quelque chose en nous, et puis ça peut être carrément des personnes quand finalement on s'enferme dans cette attitude. Est-ce que finalement, ces chèvres, ceux qui sont chèvres, est-ce que ces chèvres, est-ce que c'est parce qu'elles s'aiment trop qu'elles n'aiment pas assez les autres et qu'elles restent centrées sur elles? Parce qu'en même temps, Jésus nous dit « aime ton prochain comme toi-même ». Jésus nous dit que l'amour de l'autre, il est indissociable de l'amour de soi et inversement. Et quand je n'aime pas assez l'autre, est-ce qu'au fond je m'aime vraiment? Est-ce que quand je n'aime pas assez l'autre, en tout cas je reste fermé à sa souffrance, à ce qu'il vit, est-ce que je m'aime vraiment? Et à l'inverse, on pourrait dire, je donne tout pour les autres, quitte à carrément s'oublier au détriment de soi. Mais quand on fait cela, est-ce qu'au fond on aime vraiment l'autre? Cette foi, elle vient changer nos cœurs. C'est une foi aussi qui non seulement se traduit en actes, mais avant cela, c'est une foi qui vient changer nos cœurs pour aimer justement Dieu, déjà, pour pouvoir aimer, s'aimer justement soi et aimer justement l'autre. Et c'est en particulier de cela dont parle cette parabole des talents sur laquelle je vais revenir maintenant. C'est une foi donc qui agit dans nos cœurs, ce travail, avant d'aller vers les autres, il commence dans notre propre cœur. Il commence dans notre propre cœur. Ces actes, ils découlent d'un cœur qui a changé, d'un cœur qui peut aimer justement parce que la foi, la confiance en Dieu est venue faire cette œuvre. Et ça passe par quoi en particulier ? Ben, ça passe par le pardon. Ça passe par le pardon jusqu'à la réconciliation, quand c'est possible. Là, il est question de talent. Il est seulement deux fois question de talent dans le Nouveau Testament. Dans l'évangile de Matthieu, ici, dans la parabole des talents, et la deuxième fois, c'est dans cette parabole qu'on appelle la parabole du serviteur impitoyable. Ce serviteur qui devait 10 000 talents. C'est une sacrée somme. 10 000 talents, certains ont évalué que ça fait 3 milliards d'euros. Il devait 10 000 talents à son maître. C'est une somme irremboursable. Si on essaye d'évaluer ce que vaut une journée de travail à cette époque, on peut l'évaluer aux alentours de 50 euros. Donc c'est impossible. Impossible à rembourser. Et le maître lui fait grâce. Il dit, écoute, ok, tu me demandes pardon. Ok, je te fais grâce. Sauf que ce serviteur, est-ce que vraiment son cœur a changé ? Lui, quand il sort de chez le maître, il rencontre une personne, un de ses débiteurs, quelqu'un qui lui doit de l'argent. C'est pas la même somme que les 3 milliards d'euros. C'est quelques deniers. Donc un denier, c'est une division du talent. C'est une monnaie donc moins importante. Bref, c'est une somme qui est dérisoire par rapport à lui, ce qu'il devait au maître. Et l'autre le supplie de lui laisser le temps de rembourser. Non, non. Il l'emmène en prison. Ça nous dit que cette foi, par cette foi, Dieu veut changer nos cœurs et ça passe par le pardon. Et ce que nous avons à pardonner aux autres, même ce que nous avons peut-être à pardonner aussi à soi, parce qu'il y a des pardons qu'on a à accorder à soi-même aussi. Il y a même des fois des pardons qu'on a accordés à Dieu, quand il y a des choses qu'on n'a pas trop compris, mais c'est dans le cœur, c'est là. Ce que nous avons à pardonner, c'est dérisoire, en fait, par rapport à ce que Dieu nous a pardonné. C'est dérisoire. Et du coup, par cela, Dieu veut vraiment nous encourager à passer par ce pardon qui peut aller jusqu'à la réconciliation. Il y a des situations où c'est possible. Il y a des situations où le pardon à l'autre peut conduire jusqu'à la réconciliation. D'autres fois, non. Mais en tout cas, cette réconciliation, elle est possible au moins avec Dieu, au moins avec soi, au moins avec certains. Et c'est à partir de cœurs réconciliés que vraiment on peut rentrer dans ces actes des brebis, ces actes de générosité, de compassion, ces actes de justice, ces actes de bonté. Veiller, c'est donc travailler à nos cœurs par la foi, et ce qui passe notamment par le pardon. Mais je vais terminer sur ce... Enfin, je vais terminer, c'est le troisième point plutôt, je ne termine pas encore. Veiller, qu'est-ce que c'est encore plus précisément si là on s'en tient, on entre un peu plus dans la parabole des talents ? Oui, il y a le pardon. Finalement, le pardon, ça parle de quoi ? Bah, ça parle des souffrances. Ça parle de ce qui nous fait souffrir. Ça parle de ce qui est un défi dans nos vies, des épreuves. Et on en a tous. Et Dieu, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, ben voilà, moi je t'ai donné le pardon par la foi en moi pour que tu puisses régler ce qu'il en est de cela. Veiller, finalement, c'est quoi ? Veiller, c'est transformer par le pardon, nos souffrances, par le pardon qui vient de cette foi, donc par la foi, nos souffrances en capacité. Nos souffrances en talent. Ça marche en français, ça marche pas en allemand et en anglais. Je suis allé regarder. Veiller, c'est transformer nos souffrances en capacité. C'est faire d'un mal un bien. Par le pardon, justement, c'est comme ça qu'on va régler ces souffrances en nous. C'est quoi le lien avec la foi ? Parce que par la foi, je suis en train de dire à Dieu, « Ok, il m'a fait ça, mais Seigneur, je le confie à ta justice. Okay, » de sa part, ça me fait mal. Il y a des moments où je peux en parler, je dois en parler. Il y a d'autres moments où ce n'est pas possible. « Seigneur, je le remets à ta justice. Je crois que tu vas régler tout. Tu vas tout régler. Tu vas tout régler. Je crois en ta justice, tu reviens. » Et ça, ça aide au niveau du pardon. Bien sûr, il y a des situations qui sont difficiles. Il y a des situations où vraiment c'est compliqué de pardonner. Il y a des situations où humainement, c'est impossible de pardonner. Mais par la présence de Dieu, par la foi en Dieu, par la nature de Dieu, par la nature divine, le pardon est possible. Parce que ce que Dieu nous pardonne, c'est immense par rapport à ce que nous avons à pardonner. Et donc, veiller, c'est transformer nos souffrances en capacité, c'est-à-dire, on pourrait dire, faire d'un mal un bien. Alors, je dis en capacité, je ne dis pas en talent non plus exactement, parce que, effectivement, dans cette parabole, le talent, c'est une monnaie. C'est une monnaie. Il se trouve que c'est devenu, au fil du temps, ça a pris le sens en français d'aptitude, de don, de capacité. Mais si on va dans d'autres langues, par exemple en allemand, il est question d'un quintal. En anglais, on parle de disque d'or, parce que ces talents, c'est des monnaies. Et donc, c'est des capacités. L'argent, c'est ce qui nous donne du pouvoir, un moyen d'agir. Donc, ce sont des capacités. Et Jésus, en fait, il en parle déjà. Jésus en parle déjà. Il en parle déjà parce qu'il donne à chacun une certaine somme selon sa capacité. Et capacité, en grec, c'est dynamis. Ce mot, dynamis, en grec, en fait, c'est le mot qui désigne la puissance spirituelle. La capacité dont il est question dans cette parabole, c'est la capacité spirituelle. C'est une capacité spirituelle à accueillir la foi pour changer ce qui fait mal en bien. Dynamis, c'est la puissance de Dieu. La puissance qui s'accomplit dans notre faiblesse, dans nos défis, dans nos épreuves, dans nos souffrances. C'est cela, cette puissance. La véritable puissance spirituelle, c'est quoi ? La véritable puissance spirituelle, c'est la puissance de la croix. Là où Dieu est le plus puissant, c'est à la croix. Ça, c'est la puissance spirituelle. Ce n'est pas le surnaturel dans le sens « hop, je prie, et puis il y a des choses qui se passent » et bien sûr, il y a cela. Mais au cœur de cela, c'est la puissance de la croix. Où Dieu, Jésus nous montre « ben voilà, j'ai changé le mal en bien. J'ai changé la mort dans la vie. J'ai changé la souffrance dans la paix et même dans la joie. L'injustice dans la justice. » Donc effectivement, dans cette parabole, Jésus vient nous dire que veiller, c'est transformer nos souffrances en capacité. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, les personnes les plus talentueuses, ce sont des personnes qui ont beaucoup souffert. Ce sont des personnes qui ont beaucoup souffert et qui, à partir de cela, développent des talents, des capacités. Et en particulier, quand on connaît le Seigneur, c'est par la foi, justement, qu'on peut le faire. C'est par la foi que ça s'opère en nous. C'est quand je disais, mais la foi, c'est pas seulement croire que Jésus revient, c'est croire que sa foi, elle agit en nous déjà. Elle agit déjà dans notre cœur. Elle délivre, elle restaure. Mais il y a aussi un chemin, il y a un choix à faire. Les personnes les plus talentueuses ont beaucoup souffert. Je ne parle pas que de personnes qui sont nécessairement croyantes. Je crois que c'est un principe universel. Nous sommes dans un monde où nous souffrons. Qu'est-ce que nous allons faire ? Qu'est-ce que nous allons en faire ? C'est la question que cette parabole pose à tout le monde, que Jésus pose à tout le monde au travers de cette parabole. Je vous ai souvent parlé de mon père.
Je vais le faire une dernière fois.
Je vous ai souvent parlé de mon père parce que mon père, il a pris beaucoup de place dans ma vie dès le début de mon existence, puisque comme quand je suis né, bah, lui, il était en dépression. Bah, gamin, vous vous retrouvez finalement à devoir porter votre père. En tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé. Et voilà, je lui dois beaucoup. Et en même temps, bah, il y a eu des moments difficiles, il y a eu des moments de souffrance, il y a eu des moments, des moments d'amour, il y a eu des moments que je n'ai pas forcément vus quand j'étais adolescent en particulier. Il y a eu des moments de haine violente de ma part, des moments de jugement réciproque. Il y a eu vraiment des choses difficiles, c'était une souffrance. Et j'ai travaillé à cette souffrance. J'ai travaillé à cette souffrance, il y a eu du pardon, il y a eu de la réconciliation. Je me souviens, j'ai pas beaucoup dormi, alors ça va pas aider, mais je me souviens de ce dernier moment, finalement, quelques semaines avant qu'il décède. Donc mon père avait une tumeur au cervelet, elle avait migré à l'avant du cerveau. Quand vous avez une tumeur à l'avant du cerveau, vous avez des troubles du comportement. Finalement, vous perdez contact avec la personne avant qu'elle meure. Et voilà, je voyais mon père qui était de moins en moins accessible. Et donc, un soir, j'avais rejoint ma mère pour l'aider à s'occuper de lui, parce que c'était lourd, c'était difficile. Et donc, je le vois... Enfin, il va se coucher. Il va se coucher avec ma mère. Et là, je viens avant qu'il aille se coucher, je le prends dans mes bras et je me dis c'est un dernier au revoir. Je le fais maintenant, je le serre contre mon cœur parce qu'après je ne le reverrai plus. Et il me dit, et j'ai senti qu'il y avait comme un instant de lucidité pour lui, et il me dit prends soin de ta mère. Et vous voyez, alors qu'on a décidé de repartir en France, j'ai cette parole qui revient, qui vient me dire, bah voilà, c'est le moment. Oui, prends soin de ta mère. Mon père m'a légué beaucoup de choses. Il y a eu tout un travail aussi. Bah oui, il y a eu des talents. Je lui dois d'avoir à cœur d'accompagner les personnes, d'être thérapeute, d'être pasteur. En partie, hein. Il y a eu d'autres choses. Mais voilà, pour vous donner un exemple finalement de... Voilà, oui, il y a des choses qui sont difficiles pour chacun, mais on n'est pas à la merci de ces choses. Jésus est venu nous donner la foi en lui, justement, pour qu'on ait la victoire. Et on peut faire d'un mal un bien. Gloire à Dieu, hein. Alors, je voudrais vous dire ce matin, ne laisse pas tes souffrances, ne laisse pas tes défis, ne laisse pas tes épreuves t'emporter. Mais fais-en quelque chose, parce que tu as le Seigneur qui est avec toi. Ne fais pas comme ce serviteur mauvais et paresseux qui n'a eu qu'un talent. Pourquoi mauvais ? Parce que son cœur n'a pas changé, donc lui, il n'est pas bon. Pourquoi son cœur n'a pas changé ? Qu'est-ce qu'il dit au maître ? On comprend que sa représentation de Dieu, elle n'était pas au top. Je sais que tu es un homme dur. Ah ok ? Tu penses que je suis un homme dur ? Bah écoute, je vais te juger selon la représentation que tu as de moi. Et souvent, ce travail dans nos cœurs, il commence par changer la représentation qu'on a de Dieu. Ou en tout cas, travailler à cette représentation de Dieu pour être au plus près de ce que la parole dit de Dieu. Parce que sinon, effectivement, on est jugé en fonction de ce que l'on croit, de ce que l'on croit sur Dieu. Et c'est ce qui s'est passé pour ce serviteur. Est-ce qu'il était aussi dans le déni de sa propre souffrance ? Est-ce qu'il s'est dit, ouais, l'autre il en a deux, l'autre il en a cinq eh. Et puis en plus, Dieu, ok, moi je fais le boulot, et puis après c'est lui qui récolte tout. Est-ce qu'il était justement dans le déni de sa propre souffrance et que lui, il ne voulait pas s'en occuper ? Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il est parti dans un lieu où il y a des pleurs et des grincements de dents. Les pleurs, les grincements de dents, c'est des manifestations de souffrance. Ça veut dire que si nous ne nous occupons pas de nos souffrances, de nos défis, de nos épreuves selon la foi, cette souffrance, elle nous emporte. Et c'est ce que Dieu veut nous éviter à tous. C'est ce qu'il veut nous éviter à tous. Alors, quels que soient les moyens que tu utilises, parce que des moyens, il y en a plein, à commencer quand on croit dans le Seigneur, bah, bien sûr, à sa parole, la prière, et puis si besoin, il y a la relation d'aide, et puis si besoin, il y a la thérapie, enfin, quels que soient les moyens que tu utilises, et je crois que le premier moyen, bien sûr, c'est la parole et la prière. Moi, je vous parle de moyens que j'ai utilisés et que je continue d'utiliser et que je cherche toujours à grandir et à changer. Fais-le. Reste pas avec ce qui fait mal. Convertis-le en bien. Parce que tu peux le faire. Et Dieu t'en donne la capacité. Nous avons tous le choix. On a tous le choix. Pourquoi est-ce que Jésus choisit de parler de trois serviteurs? Il aurait très bien pu prendre celui qui a cinq talents et celui qui en a qu'un. Hein. Pourquoi il en prend un qui en a deux? En fait, Jésus, qu'est-ce qu'il est en train de faire, je crois? Il est en train d'insister sur le fait qu'on a le choix. Ce deuxième serviteur, il symbolise ce choix. Il est atteint à un carrefour entre celui qui va faire quelque chose, justement, de ses souffrances, de ses défis, par la foi, pour les changer en bien, et celui qui n'en fait rien parce qu'il se méprend sur qui est Dieu. Nous avons tous le choix. Et bien sûr, ce choix, il est individuel. Dieu, il s'adresse à chacun d'entre nous. Il s'adresse à toi. Qu'est-ce que tu fais de ce qui t'a été donné? Qu'est-ce que tu fais de ce qu'il y a dans ton cœur? Oui, ok, ça fait mal, mais potentiellement, qu'est-ce que tu peux en faire? Oui, il y a des choses qui te font peur. Mais qu'est-ce que tu peux faire par la foi que Dieu te donne? C'est un choix individuel, mais c'est aussi un choix communautaire. Qu'est-ce que vous allez faire, l'église de réveil? Avec qui vous êtes? Moi, je vais partir. Voilà, il y a eu des serviteurs avant moi. Moi, j'en étais un. Il y en aura d'autres après. Qu'est-ce que vous allez faire? Qui vous êtes avec ce que Dieu a mis en vous? Ce que Dieu a mis en vous en tant que communauté? Dans quelle mesure, certes, ceux qui sont en autorité dans l'Église vont permettre aux uns et aux autres de se lever dans ce que Dieu a mis en chacun? Mais dans quelle mesure aussi chacun va se lever? Qu'est-ce que vous allez faire des tensions, des frictions, des choses qui font... qui coincent un peu, et puis même des fois qui énervent, et puis qui font mal. Qu'est-ce que vous allez en faire ensemble? Est-ce que vous allez transformer cela en capacité pour le royaume de Dieu? Alors voilà, je voulais vous adresser cela aussi. Veiller, c'est donc transformer nos souffrances en capacité, en talent. Faire d'un mal un bien. Je vais conclure. Je vais conclure sur finalement veiller, c'est quoi? Conclure non seulement sur cette série de messages, mais aussi sur ces quatre paraboles dans l'évangile de Matthieu qui suivent le discours sur la fin des temps de Jésus pour nous dire mais ok, je reviens, veiller, veiller. Veiller, c'est quoi? Veiller, c'est donc déjà. Vous voyez, Jésus donne quatre paraboles. Alors, on peut dire, et c'est aussi une des compréhensions, hein, que Jésus, vraiment, il insiste, quoi. Veillez, 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 veillez. Hein. Okay. Et que, quelque part, il dit la même chose à chaque fois. Hein. Mais moi, finalement, en préparant ce message, que j'ai compris, alors c'est une compréhension que je vous laisse, c'est que je crois qu'il y a plus que cela. Je crois que Jésus, c'est pas pour rien qu'il donne différentes paraboles. Et que, en fait, il y a différentes étapes qui sont décrites. Différentes étapes dans ce chemin de la foi, dans ce travail de la foi. Et si on voulait le titre que je pourrais donner à cette prédication, c'est, alors il arrive à la fin, hein, c'est veiller ou le travail de la foi. D'abord, Jésus, il nous dit au travers des deux premières paraboles, celle du serviteur fidèle et infidèle et celle des dix vierges, que veiller, c'est effectivement demeurer dans une foi active, comme je l'ai dit au début. C'est garder de l'huile, demeurer dans une foi active, en particulier dans le fait qu'il revienne, et jusqu'à ce qu'il revienne. Veille à ce que ta foi soit la même, soit intacte, même qu'elle soit plus grande encore, jusqu'à ce qu'il revienne. Demeurer dans une foi active, et comment cela ? En travaillant selon cette parabole des talents, donc ça c'est la suite, selon cette parabole des talents, en travaillant à notre cœur par cette foi qui réconcilie notre cœur pour transformer, nous permettre de transformer nos souffrances et nos défis en talents pour faire d'un mal un bien. Et au bout du compte de tout cela, c'est la parabole des boucs et des brebis. Tout cela, toutes ces capacités qui ont été développées, c'est pourquoi, c'est pas que pour nous, hein, c'est pour les mettre à profit. C'est pour les mettre à profit pour les autres, par des actes de justice, par des actes de bonté, par des actes de générosité, par des actes de compassion qui vraiment prennent leur source, pas dans notre nature charnelle, mais dans ce cœur qui est changé, qui prennent leur source en Christ, dans la foi en lui. Alors voilà, voilà ce qu'est veillé. On a du travail, hein? Voilà ce qu'est veillé. Écoutez, je crois qu'on va tout simplement terminer par un moment de prière. Moi, je vais prier, mais je vous invite, vous aussi, à prier. Si vous avez le cœur à prier, qu'on puisse passer un moment de prière libre. Malheureusement, je ne pourrais pas être avec vous pour le temps du repas. Donc, je ne pourrais pas partager la Sainte-Cène avec vous. Mais voilà, qu'on puisse avoir ce moment, du coup, de prière ensemble. Et voilà, et si vous avez le cœur selon ce que Dieu est venu toucher, ben, tout simplement, et que vous voulez élever la voix, parce que bien sûr, il y a des choses qu'on garde secrètes dans son cœur, et ben, faites-le, qu'on puisse vraiment avoir un moment de prière ensemble. Ouais, Seigneur, je te loue pour ta parole. Seigneur, c'est une vérité, c'est la vérité, c'est une réalité, tu reviens. Tu reviens bientôt, tu nous dis de nous tenir prêts. Tu nous laisses ton témoignage en héritage. Pour que nous ayons la foi, je veux te louer, te remercier, te dire ma reconnaissance. Parce que tu ne nous laisses pas seuls face à nos défis, à nos souffrances. Nous pouvons nous appuyer sur toi. Tu viens nous dire, mais regardez-moi, je l'ai fait pour vous. Je l'ai fait pour vous. J'ai pris tout ce mal sur moi, à la croix. Pour le transformer en bien, pour vous. Et vous, vous avez votre part à faire, mais je suis là avec vous. Seigneur, je te loue, je te remercie pour ce que tu nous dis ce matin, chacun dans notre cœur. Seigneur, je veux te remettre chacun d'entre nous, avec ses défis, avec ses épreuves, avec ses souffrances. Je te remercie d'aller vers celui qui vraiment en a marre, quoi. Qui vraiment en a marre et se dit, mais il y en a ras-le-bol, quoi. Quand est-ce que ça va s'arrêter ? Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que tu donnes, j'appelle un esprit de révélation, et que tu donnes le moyen, l'idée, l'inspiration pour trouver le moyen de changer le mal en bien, de faire de la souffrance quelque chose qui soit une capacité pour ton royaume. Un témoignage, que ça conduise à ces actes qui témoignent de toi. Seigneur, je te remets toutes les personnes qui sont dans cette situation. Seigneur, tu es celui qui, tu nous dis, mais que celui qui est fatigué, il vienne à moi, parce que mon joug est léger. Alors, oui, ben viens à Jésus, viens à Jésus. Viens Jésus, je ne sais pas comment. Viens Jésus, moi je crois qu'il peut t'inspirer, je crois qu'il peut te dire et vraiment ouvre ton cœur. Et parfois, voilà, on se dit, mais moi j'arrive pas. Fais confiance. Fais confiance, c'est ce que Jésus nous laisse. Fais confiance. Je te remercie, Seigneur, d'agir par ton esprit au plus profond des cœurs. Merci pour ce que tu opères. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu délivres. Merci parce que tu nous gardes, Seigneur, de l'ennemi. Tu nous veux pas pour un lieu de grincement et de pleurs, de grincement de dents et de pleurs, mais dans ta présence. Seigneur, tous, nous tous qui sommes ici, toute cette église, Seigneur, toutes les personnes vers lesquelles tu nous envoies, qui potentiellement peuvent se tourner vers toi. Oui, merci Seigneur, parce que tu nous confies le royaume. Ouais Seigneur, je te loue pour ce que... ouais, que vraiment, que nous recevions chacun une révélation personnelle de ce qu'est veillé, de ce que tu nous demandes à chacun, et du fait que tu es là, tu n'es pas un homme dur, mais tu es un Dieu aimant et présent. Oui, gloire à toi Seigneur, gloire à toi. Ouais, je vous invite à vraiment à élever des prières de reconnaissance. De reconnaissance pour ce que Dieu fait.